Le supplice des week-ends. L'état actuel du problème ouvrier montre à quelle impasse peut conduire l'absence de compréhension entre les parties intéressées. Si je fais allusion à l'état actuel du problème ouvrier, c'est pour donner une petite note d'actualité à cet article. En supposant que je suis en train d'écrire pour le numéro de Noël, je commencerai de la façon suivante. La distribution irréfléchie de cadeaux de Noël montre à quelle impasse peut conduire l'absence de compréhension entre les parties intéressées. L'idée à retenir, c'est qu'on peut arriver dans n'importe quelle affaire à une impasse par la faute des parties intéressées si ces dernières parviennent pas à se mettre d'accord avant de commencer les opérations. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Ceci est spécialement vrai, faites bien attention maintenant parce que l'essentiel de mon exposé va apparaître dans un instant. Ceci est spécialement vrai dans les rapports d'hôtes à inviter au cours des week-ends. La logique de mes assertions sera évidente pour toute personne n'ayant jamais été hôte ou invité pendant un week-end, catégorie comprenant pratiquement tous les Ariens de plus de 11 ans capables de se mettre de la poudre sur le nez ou de faire un nœud de cravate. Qui n'a pas souhaité voir son hôte annoncer franchement les couleurs au début du séjour et énoncer en termes précis les us et coutumes de la maisonnée en ce qui concerne l'heure à laquelle on prend le petit déjeuner? Et qui n'a pas sondé un invité pour essayer de découvrir ses préférences en matière de régime alimentaire et de modus vivendi? Prenez par exemple le problème du lever du matin. Évidemment, s'il y a beaucoup d'invités, c'est simple, car vous pouvez toujours entendre les autres se remuer et laver les dents. Il vous est possible de régler votre propre lever et d'après le nombre de gens qui semblent être sur un pied. Mais au cas où vous êtes le seul invité, un affreux malentendu risque de se produire. « À quelle heure le petit déjeuner » demandez-vous. « Bon, le dimanche, à l'heure qu'on veut », répond votre hôtesse dans un généreux mouvement. « Dormez autant que vous voudrez, faites ici comme chez vous. » Cette attitude ne dissimule jamais qu'une pure bravade. Disons que vous vous réveillez à 8h. Vous dressez l'oreille et n'entendez pas un bruit. Vous retournez alors à votre oreiller jusqu'à 8h20. Puis de nouveau, dressé sur un coude, la tête penchée de côté, vous entendez un petit craquement dans l'escalier. Peut-être sont-ils tous debout, en train de descendre, prendre le petit déjeuner. En un clin d'œil, vous avez sauté du lit et vous écoutez à la porte. Peut-être même, l'ouvrant discrètement, jetez-vous un coup d'œil dehors. Silence de mort, ponctué, comme on dit, par le seul tic-tic-tic-tic de l'horloge. Pas une âme. Il doit se lever tard, probablement. Peut-être se lève-t-il à 11h le dimanche. Oui, il paraît qu'il y a des gens comme ça. Alors la porte refermée, vous asseyez sur le bord du lit, plus question de dormir. Regardons un peu les photographies qui décorent la chambre d'amis, histoire de passer le temps. Ah, voilà une de Lorna Doone. Salut Lorna, ça va? Elle a un groupe, pris en 1902, où votre hôte figure en tenue de soirée, une mandoline à la main. Vous devez faire partie d'un groupe musical à l'université. Une bande de types pas très soignés, faut bien dire. Bon, celle-là, une eau forte qui représente d'inquiétantes péniches naviguant sur ce qui doit être la Tamise. Pas mal. Voilà, de retour à la porte et reprenant l'écoute. Si vous faisiez couler votre bain. Si vous faisiez couler votre bain, vous risqueriez de réveiller toute la maison. Alors bon, bah autant se rasseoir au bord du lit. Tiens, des livres sur la table. 50 sonnets célèbres, illustrés par Maxfield Parrish, mais jamais avant le déjeuner. Mes expériences alpestres, par une alpiniste qui a écrit sur la page de garde, à mes bons amis Elbridge, en souvenir des moments heureux passés ensemble à Chamonix, octobre 1907. Ben voilà, ça règle tout ça. Essai sur la compensation, relié en cuir mou par R.W. Emerson, Austin Mifflin & Co., éditeur. Oh, très bien. Il pensait que ce serait un peu trop ardu pour vous, ça, hein? Eh ben, ils vont voir, on va le lire, rien que pour les contrariés. Allez, vous ouvrez le livre, la page marquée par le ruban rouge. De même, nature est cette attente de changement qui suit immédiatement la suspension de notre activité volontaire. L'horreur d'un midi sans nuages. Au fait, il doit être presque midi maintenant. 9h10. La seule chose à faire, c'est de s'habiller et d'aller faire un tour dans le parc. Et maintenant, inversons les rôles. Supposons que vous soyez l'hôte. Alors vous êtes levé à 8h, vous êtes allé écouter à la porte de votre invité, pas un bruit. Revenant sur la pointe des pieds, vous vous habillez en parlant tout bas à votre femme et en enfournant des ours en peluche dans la bouche de bébé pour qu'il réveille pas le dormeur. Il avait l'air fatigué hier soir, il vaut mieux le laisser dormir encore un peu. Sur quoi vous descendez avec des ruses de Sioux et jetez un œil aux journaux du dimanche. Puis vous faites un petit tour revigorant sur la véranda d'où vous rentrez avec une faim de loup. Un coup d'œil à votre montre qui marque 9h, d'habitude on prend le petit déjeuner à 8h30 le dimanche. L'arôme du café chaud vous parvient de la cuisine et on ne sait où quelqu'un fait rôtir des toasts. Quelle horreur! Vous vous dites qu'on doit éprouver quelque chose d'analogue quand on se trouve pris sur une banquise flottante sans provision et qu'on est en train de mourir de faim. Seulement, au moins, on sent pas l'odeur du café et des toasts. Alors, vous vous glissez dans la salle à manger, vous volez une de vos propres oranges sur le buffet, mais le petit Édouard vous voit et pousse des hurlements tels que vous êtes forcé de lui donner. Votre femme insinue que votre ami pourrait bien avoir la maladie du sommeil, peut-être. Affaibli par la faim, vous vous mettez en colère et, de fil en aiguille, « Bon, je vais monter le réveiller !» De nouveau en haut, vous arrêtez l'oreille tendue juste en face de la porte de l'invité, porte qui s'ouvre lentement, centimètre par centimètre. jusqu'à ce que la tête de ce dernier se monte prudemment et se tende dans votre direction. « Salut Bill !» dites-vous, pardon. « Qu'est-ce qui te prend de te lever si tôt? Je croyais t'avoir dit de faire la grasse matinée. »« Bonjour, Ed !» répondez-vous avec une froideur égale. « J'espère que vous m'avez pas tous attendu. » Sur quoi vous montez tous les deux et descendez prendre le petit déjeuner. Ce genre de malentendu peut prendre des proportions terribles. J'ai rencontré dans le temps un garçon qui avait passé un dimanche entier dans sa chambre à écouter à la porte pour savoir si la famille était debout, pendant que les membres de la dite famille venaient un par un sur la pointe des pieds jusqu'à sa porte pour épier le moindre signe de vie. Chacun pensait que l'autre avait besoin de repos. Vers 3 heures de l'après-midi, la famille oublia tout souci d'hospitalité et alla prendre son petit déjeuner en étouffant autant que possible le bruit des couverts à 1000 lieues de se douter que leur invité feuilletait pour la 9e fois l'almanach du pèlerin qui se trouvait sur la table de nuit et songeait sérieusement à accrocher un drap à la fenêtre pour s'évader et aller prendre le prochain train. À la fin de l'après-midi, le bruit courut qu'il avait tenté de mettre fin à ses jours et tout le monde monta à sentir si ça sentait le gaz. Ce n'est qu'en entrant un coup de vent dans la chambre que la bonne, qui n'était pas dans le secret et venait faire le lit, trouva l'invité en train d'aller et venir à pas de loup, faisant et défaisant ses bagages en écoutant d'un air anxieux les bruits à travers le mur. Bon, vous venez pas me demander comment il se fait que la bonne ignorait que le lit avait pas été fait ce matin-là. De toute façon, qu'est-ce que ça changerait? C'est des questions comme ça qui écrasent dans l'œuf toute tentative d'expression personnelle. Mais n'allez pas croire non plus que tout soit dit simplement parce que j'ai occupé toute cette place pour parler de l'actualité. Pas du tout. Il y a par exemple la question de l'exercice. Après le déjeuner, l'autre se dit « Bon, il faut faire quelque chose, je me demande s'il aime la marche. » Ah, il dit à haute voix « Eh bien, Bill, si nous allions faire un petit tour dans la campagne ?» Petit tour dans la campagne était bien la dernière chose au monde dont Bill ait pu avoir envie. Et il répond « Quelle excellente idée, tout ce que tu voudras !» Et alors, bien que la marche soit une corvée épouvantable pour son hôte qui a les chevilles faibles, celui-ci se lève avec de grandes démonstrations d'enthousiasme et empoigne sa canne comme s'il ne vivait que dans l'attente de ce moment-là. Après s'être traîné 1 ou 2 kilomètres sur la route départementale, l'autre dit d'un ton plein d'espoir « Dis donc mon vieux, j'aurais pas de crever, hein, mais dès que tu te sens fatigué, t'as qu'un mot à dire, on rentre. » L'invité, qui songe avec nostalgie au coin du feu, s'esclaffe à l'idée de rentrer et prétend que s'il y a bien une chose au monde qui préfère la marche, c'est la course à pied. Mais voilà donc reparti, clopin-clopant, cas, souhaitant qu'il se mette à pleuvoir pour pouvoir rentrer à la maison. Là encore, les choses peuvent prendre des proportions tragiques. Supposez qu'aucun des deux n'ait le courage de proposer de rentrer. Ils peuvent aller comme ça jusqu'au Canada, ou bien se mettre dans un tel état d'épuisement qu'ils soient obligés d'entrer dans une auberge au bord de la route et de manger un de ces repas typiquement méridionaux à 2 $ composés de gaufres et de poulet à l'ancienne. L'esprit se révolte et refuse à imaginer toutes les éventualités que peut entraîner ce manque de coopération entre hôte et invité. Un jour, j'ai été convié chez quelqu'un qui avait une piscine dans son parc, en toute simplicité. C'était au mois d'avril, bien avant que Flore n'ait vraiment compris ce qu'on attendait d'elle. Le premier soir, mon hôte me demanda « Vous êtes l'homme d'un bain matinal ?»« Bah, comment ?» répondis-je avec enthousiasme, croyant qu'il faisait allusion à bon bain chaud dans une salle de bain. « Bon, bah dans ce cas, je viendrai vous réveiller à 7 heures, on ira faire un petit plongeon dans la piscine. » De toute évidence, ce plongeon faisait partie de ses habitudes. Il serait donc pas dit que je me laisserais battre sur le terrain de la virilité par un quinquagénaire. Aussi, à 7 heures du matin, dans un brouillard épais, troué de temps à autre par une averse glacée, nous prîmes le chemin de la piscine pour y mettre en scène un épisode digne d'un film sibérien où des paysans se baigneraient nus dans la Nevski. Mon séjour dura 5 jours, et j'appris par la suite de la bouche d'un ami à qui mon hôte s'était confié que c'était les pires moments qu'il eût jamais passés, et que ses plongeons lui avaient donné des crises de rhumatisme chronique. Bah, je pouvais quand même pas m'en laisser remonter par un gamin, avait-il dit. Du reste, ce jeune homme avait l'air d'adorer ça. Tout ceci aurait pu être évité. En plaçant une pancarte à un endroit visible de ma chambre où il aurait été écrit « Personnellement, je déteste les bains matinaux dans la piscine en cette saison. Les invités que ça tenterait sont priés de s'adresser au bureau pour qu'on leur donne des serviettes. » Si simple, si pratique. Le système de la pancarte, c'est la seule solution que j'ai à proposer. Elle est grossière, brutale, mais elle évite au moins tout malentendu. Un écriteau placé dans chaque chambre d'amis, avec l'heure des repas, les tendances politiques et religieuses de la maison, quelques considérations d'ordre général sur la marche, sans oublier un blanc où l'invité pourrait exprimer ses vues personnelles sur le sujet, voilà, qui permettrait aux gens de faire des visites ou d'en recevoir avec une impression de sécurité, jusqu'à présent complètement inconnue sur notre planète.